professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Cette émission vous est présentée par Pimo, le spécialiste de la santé mitochondriale. Pimo, prenez soin de vos mitochondries, boostez votre santé et votre vitalité.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Bonjour Vincenzo.
Bonjour Fabrice, comment allez-vous cette semaine?
Ah, écoutez, comme à chaque fois vous me posez la question, moi je vous réponds maintenant tudo va bene quando facciamo l'amore.
Ah,
l'amore.
ce sera non sarà con me, mi dispiace.
C'est la seule phrase.
Est-ce que vous savez ce que vous m'avez demandé?
Vous savez ce que je sais même pas ce que ça veut dire cette phrase, mais j'aime bien.
Vous m'avez demandé bonjour Vincent, je vais très bien, quand faisons-nous l'amour?
Ah.
Ben vous le faites quand vous voulez, et moi quand je le voudrais, mais ce sera pas, on sera pas ensemble, d'accord?
Ah, je suis désolé, mais en fait c'est une chanson des années 80, je crois, voilà. Mais, d'accord, maintenant je sais ce que ça veut, ouais. Comme quoi, hein, comme quoi les paroles et parler la langue, c'est important. Le nombre de fois où on chante des choses d'ailleurs dans des langues, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on dit, mais on se laisse emporter par le mouvement. Heureusement mais que vous êtes là.
Vous avez pas, vous ne pouvez pas mieux dire, hein, parce que moi, quand j'ai travaillé aux États-Unis, je pensais que le mot « fuck », c'était un mot en disant « on n'est pas content ». Quoi. Et moi, je mettais du « fucking » à tout. Hein. « Give me this fucking pen ». Et à un moment donné, on m'a dit « mais tu sais ce que tu veux dire ?»« Hein, fuck », ça veut dire « enculé ». Quoi.
Ah ben super. Hein, on avait compris.
donc voilà. Donc il faut toujours essayer de contextualiser les mots qui sont banalisés par certains et ne pas les utiliser parce que ça peut... Et alors, un autre truc marrant, c'est que quand je suis arrivé aux États-Unis, mon anglais était très, très rudimentaire, scolaire, et c'était un anglais plutôt british, et les Américains. Et donc, toutes les semaines, on devait représenter nos résultats au groupe, OK? Et on avait encore, c'était des diapositives avec un projecteur, il n'y avait pas les PowerPoint, etc. Et donc, je présente mes données, et puis ma diapositive n'était pas au point. Et je veux dire, est-ce que vous pouvez mettre au point, donc focus, hein, focus, de mettre le focus, vous comprenez? Et moi, je dis, could you focus a little bit, ce qui veut dire, pouvez-vous nous baiser un petit peu? Donc tout le monde, les Américains étant puritains, on rigolait jaune, et donc pour vous dire que parfois, non pas parce qu'on veut pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais parce que notre prononciation va donner une signification complètement différente.
Et on va pas être très loin du sujet aujourd'hui parce qu'on va parler du côlon. Et donc il y a un petit sujet finalement. Mon cher Vincenzo, on va quand même remercier notre partenaire, le laboratoire Pimocare, spécialiste pas seulement de compléments alimentaires d'ailleurs, mais spécialiste de la santé mitochondriale. Avec donc des compléments alimentaires à cet effet, mais aussi des choses pour aller purifier l'air, de purifier l'eau. Vous allez sur le site de Pimocare et vous avez plein de bonnes petites choses pour votre santé. Alors, on va parler du côlon avec vous aujourd'hui. On a fait
voilà, et vous remarquerez probablement que j'ai trouvé l'origine des bruits qui vous perturbaient la semaine passée. Et donc, comme je suis chercheur, j'essaie toujours de trouver l'origine des choses. Et je me suis rendu compte que par rapport aux émissions précédentes, la semaine passée, j'avais mis ma casquette en dessous du casque qui avait déplacé un peu la hauteur du système et qui faisait que lorsque je bougeais, le système était beaucoup moins solidaire. Et donc, je peux vous rassurer que cette fois-ci, je n'ai plus ma casquette et que normalement, vous ne serez plus perturbé par ces cliquetis qui polluaient finalement votre émission. Et j'en suis désolé auprès de vous et de vos auditeurs.
En tout cas, c'était pas une émission ras la casquette, même si vous l'aviez. Et vous avez aussi dit que c'était dans ma tête au début. Hein. Tous les auditeurs sont témoins.
Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Bon. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête, Fabrice, que parfois j'ai des doutes. Hein. Voilà.
Alors, le colon, qu'est-ce qui se passe de beau dans notre colon?
Le colon. Ah ben, le colon. Donc, on arrive à la fin de l'ilion. Donc, l'intestin grêle, c'est trois segments spécifiques avec des fonctions séquentiel, le duodénum, le jéjunum, l'iléon, et on va arriver à la valve iléocécale. Il y a un petit clapet qui va en fait permettre à l'aliment qui maintenant est normalement complètement digéré et les nutriments absorbés, c'est-à-dire les monomères absorbés et certaines vitamines également, on arrive dans le gros intestin, on l'appelle gros parce qu'il va être beaucoup plus large. Okay, et que se trouve-t-il, qu'est-ce qu'on va trouver à la jonction iléocécale?
Ah, c'est une
que va-t-on trouver, mon petit Fabrice?
J'en sais rien. Là,
mais Fabrice, mais enfin, mais si. Mais c'est... Peut-être que vous n'en avez plus d'ailleurs.
Ah, c'est quoi?
Parce qu'on vous l'aura enlevé.
L'appendice,
très bien. Donc, c'est un organe dit vestigial qui est là, dont on ne connaît pas encore les fonctions. D'aucuns disent que dans l'appendice se trouve la réserve du microbiote original hérité lors de notre naissance et que c'est lui qui va ressemencer notre microbiote lorsqu'on a une grosse diarrhée, etc. Enfin voilà, et que c'est de là qu'on peut supputer que notre microbiote est résilient, c'est-à-dire que in fine, on va retrouver toujours la même composition de ce microbiote.
D'ailleurs, en parlant de l'appendice, pardon, mais on faisait beaucoup d'appendicite avant, enfin, on en avait beaucoup parlé, j'ai l'impression que c'est...
Ah ben, l'appendicite était le pain quotidien du chirurgien. Dès que vous aviez mal au bidon, on vous enlevait l'appendicite, ce qui permettait de... La médecine allopathique était basée, en effet, sur la rentabilité. Alors, on arrachait les amygdales, les végétations, maintenant ça se fait beaucoup, de manière beaucoup plus discrète et de manière beaucoup plus posée et intelligente et sensée. Avant, mal au bidou, mais évidemment, on ne peut pas leur jeter la pierre, parce que, en fait, vous savez qu'une appendicite, si elle n'est pas traitée rapidement, si elle se transforme en péritonite, c'est-à-dire que une appendicite, c'est quoi? C'est une pullulation de bactéries pathogènes dans ce petit cul-de-sac du tube digestif qu'on appelle donc un système en cul-de-sac. Et souvent, c'est parce que l'orifice qu'il communique avec le côlon est bouché et c'est un véritable abcès. Okay? Et si cet abcès n'est pas soigné à temps et qu'il explose dans la cavité péritonéale, on a une pullulation, une prolifération de mauvaises bactéries dans toute votre péritoine qui peut vous donner une septicémie, un choc septique qui peut vous tuer. Okay? Donc, souvent, alors qu'on n'avait pas des moyens diagnostiques et thérapeutiques, il était beaucoup plus sage en préventif de retirer l'appendice même s'il n'y avait pas d'abcès, même s'il n'y a pas vraiment d'appendicite, que de prendre ce risque, vous voyez.
Mais alors, moi j'avais entendu dire, et ce sera l'occasion, alors j'adore être avec vous parce que vous allez pouvoir me dire si c'était exact ou pas, que quand on a une diarrhée sévère ou une infection intestinale, est-ce que l'appendice, elle servait de refuge pour les bonnes bactéries?
C'est vrai ou pas? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Hein.
Ah oui, non, mais parce que vous avez dit, c'est que les mauvaises bactéries aussi, c'était une inflammation ou j'ai pas compris?
Non, que l'appendice, lorsqu'elle est saine, c'est un. On pense qu'elle est un réservoir, on n'a pas la preuve qu'elle est un réservoir qui ressemence les bactéries qui ont été évacuées par ce transit accéléré qui a donné la diarrhée, okay, et que c'est en fait notre réserve, la graine qui va ressemer le microbiote originel. Voilà. Mais que comme éventuellement dans cette petite structure en cul-de-sac, il y a des bactéries mauvaises qui peuvent y aller et proliférer, à un moment donné, cet appendice devient plus un danger qu'une réserve de bonnes bactéries.
Très bien. Et alors pourquoi on note une baisse des appendicites aigus depuis les années 2000? Ça, est-ce que vous avez, il y a une raison?
Il n'y a pas vraiment une baisse d'appendicite aiguë, est-ce que vous avez vu ça?
Ah ben, je l'ai lu. Attendez, monsieur Castron, vous pensez que je sors ça de mon... Non, je le lisais là, sur un article justement qui était là sous mes yeux. Je vais vous dire la source. C'est pas compliqué. Regardez, tac. Je suis là sur Passeport Santé.
Ouais.
Ils me disent que depuis les années 2000, les appendicites aigus dans les pays un peu modernes a baissé de manière considérable.
Non, c'est-à-dire l'appendicite, le diagnostic d'appendicite aiguë, parce que souvent, on sait que c'est pas un appendicite. Alors, ça a baissé de manière considérable parce que depuis les années 2000, nos outils diagnostiques sont plus précis et permettent d'exclure une appendicite aiguë. Et donc, il y a des personnes qui étaient opérées pour une appendicite soi-disant aiguë. Et quand on ouvrait l'abdomen, on trouvait éventuellement un kyste ovarien tordu. Donc, on a beaucoup plus aujourd'hui, déterminer quels sont les paramètres qui permettent de suspecter avec une haute probabilité la présence d'une appendicite aiguë. Et donc, le diagnostic d'exclusion est plus souvent appliqué qu'avant.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà. On va rentrer dans le détail du côlon davantage encore dans un tout petit instant. Merci et pardonnez-moi pour cette digression sur l'impadisme. Mais bon, c'est vrai que c'est une...
Non, mais bah, écoutez, moi, je suis là également pour satisfaire votre curiosité et calmer vos angoisses cognitives sur le fonctionnement du corps, évidemment. Donc, oui. C'est avec plaisir que j'essaye de résoudre vos angoisses, évidemment.
Et d'ailleurs, si vous avez des questions pour le professeur Vincenzo Castronovo, vous pouvez le faire via le site internet Nutri Radio dans la rubrique Contact en précisant professeur Vincenzo Castronovo. On a d'ailleurs une question qu'on va traiter juste à la fin de cette émission. On ne vous oublie pas et sinon mon téléphone, 0666 945 902, via WhatsApp. Eh bien, vous pouvez soit nous laisser un message, soit même votre numéro de téléphone, et pourquoi pas intervenir sur antenne. Ce sera avec vraiment beaucoup de plaisir. Le retour de cette émission, c'est dans un instant.
Redécouvrez votre énergie cellulaire avec PIMO, le laboratoire spécialiste de la santé mitochondriale. Nos solutions agissent au cœur de vos cellules, là où votre énergie se crée, pour améliorer votre bien-être chaque jour. Avec une approche basée sur les recherches scientifiques les plus récentes, PIMO favorise naturellement la régénération cellulaire en prenant soin de vos mitochondries pour une vitalité et un équilibre retrouvés. Faites le premier pas vers votre renouveau dès aujourd'hui grâce à notre offre unique sur le marché. PIMO, l'allié de vos mitochondries pour une santé pleine de vie naturellement.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Le professeur Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio. On parle du côlon. Vous nous écrivez un petit peu sa fonction. Et surtout, si un côlon mauvais état, qu'est-ce que ça peut nous donner aussi comme trouble ?
Ah, beaucoup de troubles. D'ailleurs, il y a cette bouteille à encre dans lequel on tout qui a mal aux intestins, c'est la colopathie fonctionnelle. Et ça reprend vraiment tous les patients qui ont mal à l'abdomen. On va dire qu'il y a une colopathie fonctionnelle, une colopathie chronique. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui parce qu'on va parler des fonctions premières du côlon. Alors le côlon, on peut dire que son premier rôle, c'est d'occuper cet organe extra-humain qui va nous occuper plusieurs qui abrite cet organe extra-humain qui est le microbiote intestinal et dont nous allons probablement parler pendant plusieurs émissions. Okay? Donc c'est un véritable organe extra-humain qui a une activité métabolique plus importante que le foie. Or c'est un organe qui a une activité métabolique importante qui est l'organe le plus lourd de... Figurez-vous, mon petit Fabrice, que dans vos intestins, dans votre côlon, vivent 2 kilos de bactéries. 2 kilos de bactéries vivantes qui, pour le moment, sont en train, bien sûr, de manger, de jouer, d'interagir entre elles. Et ces bactéries sont en général des bactéries amies. Okay ? Notre microbiote est considéré essentiellement, quand on est en bonne santé, et quand on a un microbiote en bonne santé, on dit qu'il est en eubiose, E-U-B-I-O-S, eubiose. Quand il est en mauvaise santé, déséquilibré, on parle de dysbiose, D-Y-S-B-I-O-S. Donc, ce microbiote joue un rôle extrêmement important, et il y a, après des millions d'années, se sont établies des synergies et des symbioses, c'est-à-dire que nous offrons le couvert et le logis aux bonnes bactéries et elles font énormément de travail pour nous. Qu'est-ce qu'elles font comme travail? Elles extraient une partie de l'énergie des aliments et on peut dire que 10% des calories qui vont bénéficier à notre corps proviennent du microbiote. Okay. D'autre part, elles vont produire des vitamines, la vitamine B9, par exemple, la biotine, elle va produire de la vitamine K2, une vitamine extrêmement importante qui nous protège au niveau cardiovasculaire. Nous aurons également des émissions sur ces vitamines, leur rôle précis, etc., comment les vérifier, comment les prendre. Eh bien, avoir un bon microbiote nous garantit que nous produisons nous-mêmes nos vitamines. Donc, ce qui veut dire qu'en en bonne santé, ces molécules ne sont plus des vitamines, puisque une vitamine, c'est une molécule que nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes. Mais notre microbiote peut en produire, d'accord? Alors, après les vitamines, les bonnes bactéries vont produire également des substances qui sont trophiques pour l'intestin, c'est-à-dire qui vont permettre son renouvellement, l'entretien, etc. Les bonnes bactéries vont avoir un rôle également au niveau du contrôle de la flore microbienne. Elles vont produire des antibiotiques naturels qu'on appelle des bactériocines, qui vont empêcher les mauvaises bactéries de proliférer. Donc, et elles vont également détoxifier les toxines que soit nous ingérons. Et par exemple, et je pense que vous aviez l'idée de parler des PFAS, eh bien, certaines bonnes bactéries sont capables de détruire les PFAS. Et ces polluants éternels qui sont un vrai, véritable scandale et un problème sanitaire. Et je pense que vous aviez l'idée d'en parler à l'émission suivante. Et je pense qu'il est temps, parce qu'il est temps non seulement de prévenir la population, la rassurer, ça va être compliqué, mais en tout cas de donner des pistes pour éviter d'être victime trop importante de ces molécules extrêmement toxiques.
Ah bah écoutez, on en parle dans une prochaine émission, si vous voulez bien, on sortira un peu du côlon avant d'y replonger peut-être, mais on aborde ça, ça vous va Vincenzo la semaine prochaine?
Comme vous voulez, hein, moi je suis votre serviteur, hein, et celui de vos auditeurs évidemment.
Ah, surtout.
Donc ce côlon, il va également résorber, donc il y a la valve iléo-cécale, il y a le côlon ascendant, et là on a surtout une activité de fermentation, c'est-à-dire la fermentation, ce sont les fibres qui n'ont pas, comme le fructo-oligosaccharose ou inuline, qui n'ont pas été digérées, ils ne sont pas digérables par notre tube digestif. Elles sont destinées, ces fibres qu'on trouve notamment dans la tunique des céréales non raffinées, elles vont nourrir nos bonnes bactéries qui vont fermenter. La différence entre fermentation et putréfaction, c'est que la fermentation utilise des carbohydrates, c'est-à-dire des sucres, okay, et ça produit pas des gaz qui sentent mauvais. Alors que plus loin, comme les cadavres des cellules et des bactéries riches en protéines vont s'accumuler, on va plutôt privilégier la flore de putréfaction. Et ça veut dire qu'elles utilisent les protéines comme source d'énergie. Et comme vous savez, quand on veut utiliser comme carburant une protéine, il y a une mission importante à faire, c'est de se débarrasser du groupement amine. Hein, acide aminé, il y a un groupement amine avec de l'azote. Et ce groupement amine doit être éliminé, il est éliminé sous forme de gaz volatile, la cadavérine, la putrésine dont on a déjà parlé, qui donne cette odeur piquante de la mort, éventuellement de nos irritations aborales. Ok, donc voilà, détoxification. Et puis alors, on a le côlon descendant, okay, à l'angle splénique, parce que là, il est en jonction avec la rate, hein. Et puis, il va s'obliquer vers l'anus pour se transformer en sigmoïde, qui se continue par le rectum, dans lequel vont s'accumuler les matières fécales, et puis par l'anus à travers le canal anal. Alors, une des fonctions du côlon, c'est l'absorption d'eau. Hein. En fait, comme vous savez, nous devons... Au départ, nous sommes des animaux marins, et en sortant de l'eau, eh bien, nous avons dû développer des systèmes d'économie de l'eau pour pouvoir maintenir stable notre mer intérieure, MER. C'est le liquide extracellulaire. Nous avons, par exemple, 5 litres de sang, mais nous avons une trentaine de litres de liquide intérieur dans lesquels baignent nos cellules. On l'appelle le liquide extracellulaire, okay. Et donc, il est fondamental de maintenir stable cette quantité d'eau, et c'est pour ça qu'on a tout un système de régulation. On parle de la régulation homéostasique du bilan hydrique, okay. Pour ça, alors généralement, vous voyez, ce liquide extracellulaire va se renouveler, et en général, notre bilan hydrique doit être à zéro, c'est-à-dire qu'on doit introduire dans notre corps autant d'eau qu'on va en perdre. Okay. Donc déjà, on va perdre entre 1 litre, 1,5 litre d'urine par jour. Okay. Mais au niveau fécal, au niveau digestif, on va essayer d'en perdre un minimum. Généralement, on en perd quelques 100 millilitres. Donc vraiment très peu. Sauf si on a une diarrhée, bien sûr, là, on peut vraiment se déshydrater parce que on ne va pas pouvoir compenser. Donc, une fois, si le transit est accéléré, eh bien, l'absorption ne se fait pas bien et on va avoir donc des selles très liquides et on va perdre de l'eau. Il faudra boire, mais également, dans ce processus-là, on va perdre des selles du sodium, du potassium et donc on va avoir un déficit hydroélectrolytique. Ça, c'est le problème de la diarrhée.
Très bien.
Donc, mais normalement, les matières fécales donc, vont prendre leur consistance parce que, justement, elles vont être débarrassées de l'eau par absorption. Le colonocyte, donc l'entérocyte, c'est la cellule qui tapisse l'intestin grêle. Le colonocyte, c'est la cellule qui tapisse le côlon. Okay, elle est très absorbante. Okay, mais ce qui veut dire que si le transit est ralenti, on va tellement assécher les matières fécales qu'elles vont devenir dures, parfois dures comme de la terre, comme de la pierre. Okay. Et parfois, on peut même avoir dans le rectum des matières fécales qui sont extrêmement, extrêmement dures. On peut avoir des amas de sel qui sont comme de la pierre. On appelle ça des fécalomes et qu'il faut aller. On parle d'accouchement des fécalomes. On a souvent ça chez les patients constipés chroniques et il faut aller chirurgicalement aller retirer cette boule de matière fécale qui se sont pétrifiées. Ok, ça c'est important. D'accord. Donc alors c'est au niveau du rectum que va s'opérer une action extrêmement importante qui est le réflexe défécatoire.
Le réflexe défécatoire.
Oui, c'est-à-dire avoir, ressentir le besoin d'aller se débarrasser de ces matières fécales, aller faire caca en termes enfantins. Okay, nous devons évacuer tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'a pas été absorbé et finalement le surplus des aliments, les déchets qui ne sont pas utiles pour nous, mais qu'éventuellement seront, comme vous savez, vos crosses, c'est du gâteau pour les, je sais pas les vôtres, mais souvent les crosses, c'est du gâteau pour les mouches. Hein. Il y a comme ça, parce que nous n'absorbons pas tout, il y a encore des nutriments qui peuvent servir. Est-ce que vous savez, par exemple, quand j'ai été en Afrique du Sud, j'ai appris que dans les crottes de rhinocéros, il y a 80% de la cellulose qui est encore disponible et qui sert d'aliment à d'autres animaux. Donc, vous voyez, donc ce qui est crotte pour vous, ben, ne l'est pas pour d'autres. Voilà.
Alors, chaque fois que je vois des mouches qui mangent un peu de crotte, je chante joyeux anniversaire.
Ben voilà, et vous remercie, évidemment.
Hein. Évidemment. Alors, Vincenzo, comme on se dirige vers la fin de cette émission, Mais oui, mais on va continuer après, vous inquiétez pas, on a tout le temps. Mais on sait que le cancer colorectal, c'est un des cancers les plus fréquents en France. Est-ce que on sous-estime un peu la prévention?
On sous-estime largement la prévention. Largement la prévention. Et on peut vraiment, en comprenant quels sont les éléments qui vont générer ce cancer colorectal, on peut vraiment réduire de manière significative la genèse, le développement, mais également pour ceux qui n'ont pas respecté les règles élémentaires pour ne pas développer de cancer du côlon, la prévention, c'est la colonoscopie, hein, qui permet, écoutez ça, c'est important, lorsqu'on trouve un cancer du côlon qui est débutant, qui n'a pas encore métastasé, et qu'on l'enlève après, donc finalement, un polype qui est en train de se cancériser, eh bien, votre chance d'être en vie encore 5 ans est de 95%. Lorsque vous avez des métastases, c'est-à-dire que le cancer est tardif, eh bien, ce pourcentage tombe à 5% d'être encore en vie quand vous avez métastases au niveau du foie. Donc, ça vaut vraiment la peine de régulièrement, surtout si vous n'avez pas une hygiène qui permet de réduire le risque de se soumettre à ce test. Il y a des tests également qui ont moins sensibilité, qui est la détection d'hémoglobine humaine dans les selles. Un test immunologique, on va prendre un échantillon de sel, on va voir si vous saignez, ok? Parce que les cancers débutants saignent, et puis alors on peut sélectionner ceux, mais il y a des faux négatifs, c'est ça le problème. Donc voilà, donc ce cancer, on en parlera, mais on aura toute une série d'émissions sur le cancer. Ça, c'est un peu, non pas mon dada, mais ma spécialité, puisqu'au début, au départ, je suis cancérologue expérimental et que je suis beaucoup et que je m'occupe beaucoup de patients cancéreux. En
Bien.
accompagnement, évidemment.
Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais aussi qu'on parle peut-être du butyrate, dont on entend parler de plus en plus aussi pour.
Ah, ben on en parlera la fois prochaine. Ou en tout cas, bon, la fois prochaine, on parle de l'eau et de ces polluants qui compromettent l'humanité entière, d'ailleurs, parce que ce sont des polluants qui sont extrêmement. C'est pas forcément, on n'en parle pas que c'est pas dangereux, hein, croyez-moi. Et donc, le problème, c'est que s'en débarrasser veut dire qu'on doit changer énormément de choses qui apportent du confort, vous voyez?
Alors, ce qu'on va faire, c'est que, vous l'avez compris, chers auditeurs, il y a des sujets passionnants qui arrivent, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de ces émissions, mais on va prendre le temps pour tout traiter. On voulait réagir à un article et à ce reportage, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, d'Envoyé spécial, qui parlait de ce CVM, le chlorure de vinyle monomère que l'on retrouve dans beaucoup d'eau du robinet en France, 30% du système des eaux en France qui ne sont pas. Qui aujourd'hui sont dangereux pour notre santé. Donc on reviendra avec le professeur Vincenzo Castronovo sur ce CVM, le chlorure de vinyle monomère. On parlera aussi des PFAS et les bactéries qui peuvent nous aider, les bonnes bactéries qui peuvent nous aider à peut-être s'en débarrasser. Enfin, ce sera plein de questions qu'on pourra aussi vous poser. On parlera aussi du butyrate. Il y a plein de choses à faire ensemble.
Et tout à fait. Et donc, sans friser la constipation, on va mettre au repos le côlon pour pouvoir y revenir et faire de jolies crottes dès qu'on aura abordé le problème de l'eau, mon petit Fabrice, si ça vous dit.
Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, car vous avez bien terminé encore une fois cette émission. Merci beaucoup, professeur Vincenzo Castronovo. On se retrouve dans quelques temps, vendredi prochain peut-être, mais il me semblait qu'on allait faire une petite pause pour les vacances. On verra ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, voyez-vous.
Voilà.
Et donc, on fait peut-être aussi nous-mêmes
okay.
une petite
Merci,
pause.
Fabrizio di Nutriradio.
Hey, grazie mille. Et n'oubliez pas que cette petite phrase, je l'ai oubliée, mais toi, je l'ai oubliée. Oh là là.
Voilà, mais au goulot. C'est bien que tu l'aies oublié, oublie-la pour toujours. C'est tes propositions malhonnêtes.
Alors, écoutez, 2025, allez, on revient en musique tout de suite sur Nutri Radio et cette émission, elle est dispo en podcast tout de suite là sur nutriradio.fr dans la partie médias podcast. Au revoir, professeur.
Au revoir, Fabrice, à la semaine prochaine.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.